En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres a organisé, en partenariat avec la Société asiatique et l'Institut national des langues et civilisations orientales, un colloque intitulé « Voir et concevoir la couleur en Asie ». C'était le 11 et le 12 janvier 2013. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de l'intervention de Thierry Zéphir du musée Guimet. Sa communication s'intitule « Symbolique et esthétique des couleurs à Agenta, Tajoré ».
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais effectivement vous projeter un certain nombre de photographies de deux sites, de hauts lieux de la peinture indienne et plus particulièrement de la peinture murale Agenta et Tanjore. Alors, je voudrais, avant de commencer, présenter très brièvement, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, ces deux sites dont la présentation conjointe peut paraître surprenante parce qu'ils sont très différents l'un de l'autre, de dates différentes, d'obédience religieuse différente. Mais si j'ai choisi de les comparer, c'est pour montrer la posture et la position en fait relative qu'ont eu les artistes du bouddhisme et ceux de l'hindouisme par rapport justement à la question des couleurs, malgré les différences donc de temps et de lieu qu'imposent les deux sites choisis. Ce sont par ailleurs des sites où des ensembles muraux conséquents sont conservés. Ces ensembles muraux étaient innombrables dans l'Inde classique et ancienne, mais très peu nous sont parvenus parce qu'évidemment, ce sont des éléments artistiques très fragiles qui, soumis à des conditions climatiques ou un manque d'entretien flagrant, ont parfois totalement disparu. Donc vous avez à gauche ici le temple de Tanjore, le grand temple shivaïque de Tanjore du début du XIe siècle, et à droite l'exceptionnel site en arc de cercle dans un méandre de la Wagora des monts Indiadri d'Ajanta. Les lieux sont donc différents. Ajanta se trouve au Maharashtra et Tanjore au Tamil Nadu. Et dans la chronologie de l'histoire indienne, Ajanta se rapporte à l'époque où la dynastie des Vakataka, feudataires de la dynastie des grands Gupta, régnait sur une bonne partie du Maharashtra et du Madhya Pradesh, comme l'indique la carte de gauche, au 4e, 6e siècle de notre ère, alors que celle des Cholas régnait dans l'extrême sud-sud-est de l'Inde, essentiellement au Tamil Nadu, entre le 9e et le 13e siècle. Ajanta est donc ce site très spectaculaire, cet amphithéâtre rocheux où ont été creusés dès le 2e, 1er siècle avant notre ère des grottes bouddhiques et qui a été dans une deuxième phase de réalisation complétée sous les Vakataka, donc au 4e, 6e siècle. On y trouve des monuments dont la typologie est bien connue, les sanctuaires, les chaityas de plan absidal avec ses façades très richement ornées au moins pour les excavations tardives de ce site d'Ajanta, dans lesquelles on trouve, comme il se doit, l'objet de culte qu'est le stupa, rehaussé ici par l'image du Bouddha, qui tend progressivement à devenir prééminente dans tous ces sites bouddhiques, où le Mahayana d'ailleurs se développe considérablement à l'époque concernée. Et il y a, dans une deuxième catégorie architecturale, sur ce site excavé d'Ajanta, les viharas, les grottes monastères dans lesquelles résidaient les moines, qui se présentent bien sûr en plan comme en utilisation de manière très différente des chaityas, et qui incluent généralement aussi à Ajanta, pour cette époque Vakataka, un petit sanctuaire creusé tout à fait au fond de la grotte où apparaissent d'ailleurs ici fugacement quelques traces de pigments, notamment sur la représentation du Bouddha qui figure au centre de l'image. Mais l'intérêt premier de ce site d'Ajanta, ou l'un des grands intérêts de ce site d'Ajanta, ce sont précisément ces ensembles de peintures murales. Le site lui-même a été découvert par les Occidentaux, entre guillemets, les Britanniques, lors d'une chasse au tigre, en tout cas la légende le perpétue jusqu'à nos jours, en 1819, et dès ce moment-là, en tout cas quelques années après, et puis ensuite de façon continue, il a été étudié et entretenu, restauré. Malheureusement, la fragilité des peintures est telle que leur dégradation n'a cessé de continuer au cours du temps, à tel point qu'aujourd'hui, il est parfois bien difficile de reconnaître ou de lire ce que l'on nous indique dans les témoignages descriptifs les plus anciens. Quant à Tanjore, eh bien, c'est un temple classique de l'architecture médiévale de l'Inde du Sud, un de ces grands sanctuaires à toiture pyramidale, construit dans une enceinte et accompagné de monuments de dates diverses, d'ailleurs, et pour certains plus tardifs, avec la composition habituelle de ces architectures, la cella, ici entourée d'un déambulatoire, précédée d'un long mandapa, une grande salle à piliers pour les fidèles, et dissociée du pavillon du taureau Nandine qui fait face au monument, lequel ouvre vers l'est. L'intérieur du déambulatoire, et vous excuserez la qualité déplorable du cliché, mais malheureusement, je n'en ai pas d'autre à vous montrer, a révélé en 1930-1931 des peintures murales d'époque Chola, donc du début du XIe siècle, dont on ignorait tout jusqu'à ces années 1930, et qui se révèlent donc de grands chefs-d'œuvre de l'art indien en général, de l'art pictural en particulier, et de l'art hindou spécifiquement, puisque bien évidemment ici, les thèmes sont des thèmes associés à Shiva essentiellement. Alors, pour évoquer un petit peu l'approche différenciée et différentielle qu'ont eu les artistes dans la réalisation de ces peintures murales, il faut juste rappeler que dans le monde indien, et dans le monde des arts en particulier, ce que nous indique un certain nombre de traités normatifs, de traités sur les sujets techniques, de Shastra, comme le Vishnu Dharmotara Purana qui a été compilé entre le 4e et le 7e siècle, semble-t-il, et puis des textes un petit peu plus tardifs, l'Abhila Siddhartha Chintamani au 12e ou le Shilparatna au 16e, eh bien, tous ces traités indiquent combien la peinture murale est prééminente par rapport aux peintures d'une autre nature, peintures sur support textile ou éventuellement de bois. Une petite citation du Vishnu Dharmotara, justement, dans lequel la peinture murale est ainsi exalté. Je cite donc « Tout juste comme le Sumeru est le meilleur démon, Garuda le plus éminent des oiseaux, un monarque le premier parmi les hommes, de même la peinture murale, la meilleure peinture, est le plus appréciable des beaux-arts. » Alors cette peinture murale se décline en quatre étapes principales dans les descriptions techniques que donnent les traités. La première est fondamentale, même si elle est peu visible, c'est la préparation de l'enduit, le subjectile qui doit être parfait pour recevoir les fragiles pigments et les compositions extrêmement complexes que l'on observe aussi bien à Ajanta qu'à Tanjore. La deuxième étape, c'est celle du dessin, c'est-à-dire la réalisation de la scène ou des scènes, de façon, je vous en montrerai bien sûr des exemples extrêmement denses et complexes. La troisième, c'est la mise en couleur et le modelé, et l'application du modelé, et c'est là qu'intervient bien sûr tout ce que l'on peut dire à propos des couleurs, ces couleurs désignées lorsqu'elles sont artificiellement produites pour créer une œuvre d'art sous le nom de Varna ou de Ranga, dérivant des racines sanscrites Vri, qui a la capacité de recouvrir une surface, ou Ranj, qui a la capacité d'adhérer à une surface. Et enfin, la quatrième étape, c'est celle de la finition du panneau peint, avec la reprise des contours, l'application éventuelle d'une dorure, etc. Il y a dans les traités, évidemment, les couleurs fondamentales auxquelles Madame Parly-Renault vient de faire allusion, qui sont spécifiquement nommées. Ces couleurs fondamentales se déclinent dans certains de ces traités, notamment le Shilparatna, qui est beaucoup plus tardif, bien sûr, que les exemples dont je parle, sous des formes multiples, car il n'y a pas un seul blanc, il y a des blancs. Et ce sont ces infinies nuances chromatiques qui constituent la richesse esthétique, au-delà du symbole même qu'incarne telle ou telle de ces couleurs. Ce sont donc ces infinies nuances chromatiques et qui font toute la richesse de ces traditions picturales indiennes. Ainsi, le blanc, juste pour donner un exemple, ce Shweta, tel qu'il est nommé dans le Vishnu Dharmotara déjà et puis dans bien d'autres textes, peut-il être aussi décrit, mais comme différent du Shweta pur, tel un blanc couleur de perle, un blanc couleur d'écaille, couleur d'argent, couleur de lait de vache, couleur d'étoile, couleur de rayon de lumière. Et il en est ainsi pour pratiquement toutes les couleurs primaires, sans parler bien évidemment des couleurs associées ou secondaires qui constituent un mélange de ces pigments premiers. Alors, dans un texte particulièrement important, le Shilpashastra, enfin le Sadanga, pardon, des Shilpashastra, le traité des six éléments de la peinture, les couleurs constituent ce que l'on appelle le Varnika Banga, c'est-à-dire le jeu de couleurs ou le mélange des couleurs, ce qui est très important, résultant en un effet de modelé. La couleur n'est pas appliquée en tant que telle pour définir simplement un élément, éventuellement le caractériser, lui donner du sens, elle est aussi là pour le rendre vivant. Et c'est ce caractère essentiel du modelé qui va donner une corporalité à un art par définition bidimensionnel que les artistes d'Ajanta plus particulièrement et dans une certaine mesure également de Tanjore plus tard ont si bien traduit. Alors venons-en maintenant aux exemples et commençons, la chronologie y invite, par le site d'Ajanta. Bien sûr, les peintures y sont très endommagées, assez dégradées, mais il subsiste dans certaines cavernes ou grottes, les deux termes étant également impropres, un certain nombre de compositions tout à fait lisibles. Ce sont essentiellement des grottes de type Vihara, donc espace dévolu à l'habitation des moines, et puis bien sûr en partie sanctuaire privatif pour ces derniers. Et ici, nous sommes devant la façade, sous la véranda de la grotte numéro 17, où l'on observe au-dessus du linteau de porte toute une série de motifs décoratifs ou symboliques, mais surtout une frise de représentation de Bouddha, les Bouddhas du passé, le Bouddha historique qui est l'avant-dernier de la série vers la droite, et le Bouddha du futur, Maitreya. Ces Bouddhas se différencient les uns des autres, même si tout n'est plus très visible aujourd'hui en raison de la dégradation d'un certain nombre de pigments, par des couleurs, aussi bien dans leur carnation que dans les vêtements qu'ils portent. Et l'image la mieux préservée de toutes, ou presque, est celle de Shakyamuni, donc du Bouddha historique, où l'on note, comme disons, élément d'identification iconographique assez récurrent par la suite, la couleur safran théorique, ici légèrement orangée du costume, différente donc des costumes de ses prédécesseurs et différent aussi, en tout cas dans les nuances de la tonalité, du costume de celui qui lui succédera, Maitreya. Ce sont pratiquement, en ce qui concerne les éléments symboliques qui peuvent donc être compris de tous après lecture des traités normatifs, que l'on peut réellement pointer du doigt à Ajanta. Car par ailleurs, voici un autre exemple, pardon, cette fois à l'intérieur de la grotte 17, où l'on retrouve cette couleur orangée, safran, du costume du Bouddha historique dans une scène de sa vie terrestre ultime et dernière, celle de la présentation de son fils Raoula. Donc c'est pratiquement pour Adjanta le seul élément d'ordre normatif qu'il soit possible de mettre en exergue, car nous ne sommes pas encore, en tout cas à l'époque où ces peintures ont été réalisées, dans la perspective très codifiée, très riche aussi, du bouddhisme et de ses iconographies et des peintures bouddhiques de l'époque Pala, au nord-est de l'Inde, à partir des 8e, 9e siècles. Les manuscrits Pala, celui-ci très célèbre et magnifique de la collection Fournier, présentent justement, dans la continuité du Bouddha Shakyamuni de la grotte 17 d'Adjanta, les mêmes principes, à une différence près. Le Bouddha a certes un costume ici rouge, qu'on comprendra comme étant ce costume monastique de couleur safran ou orangé, et donc la différence ici réside dans le traitement de la carnation qui était brune à Adjanta sans que le pigment semble avoir subi de dégradation chromatique particulière, alors qu'ici il est doré, ce qui évidemment convient idéalement au personnage et à l'image même d'un Bouddha. Les choses vont plus loin, bien sûr, dans cet art du nord-est de l'Inde, ensuite, bien sûr, dans l'art des pays himalayens, Népal et Tibet, avec une surabondance de détails, d'ordre chromatique, caractérisant telle ou telle divinité, non seulement pour les costumes, mais aussi pour les carnations. Toujours sur ce même manuscrit Fournier du début du XIIe siècle, vous observez ici à nouveau les deux plats de couverture avec ces scènes de la vie du Bouddha et donc le Bouddha historique lui-même. Et puis, dans les feuillets intérieurs, un certain nombre de divinités de couleurs bleues, jaunes, rouges quelquefois, qui sont toutes identifiables par justement ces éléments d'iconographie, qui sont donc de nature symbolique, qui ne reflètent nullement la réalité des choses et qui ne cherche pas à être réaliste, ce qu'est d'ailleurs peu souvent l'art dans le monde indien. Mais pour en revenir à Adjanta, dans le cadre des compositions picturales majeures de la grotte 17, voici un très bel exemple nous montrant justement que les artistes ont été moins sensibles aux symboles et à la recherche de pertinence par rapport à ces éléments chromatiques qu'à une atmosphère, cherchant à décrire et à représenter le vrai autant que faire se pouvait, et ce, avec un art consommé du rythme, de la vie et du renouvellement. Il s'agit ici vraisemblablement, enfin, c'est certain d'ailleurs, d'une scène de Jataka, mais l'identification précise de ce Jataka pose problème, puisque les spécialistes ne s'accordent pas. Traditionnellement, on reconnaît dans ce fragment de scène une représentation du Mahajanaka Jataka, mais rien n'est sûr en la matière. Et lorsqu'on s'approche de la partie la plus importante et la plus belle aussi de cette scène, ce couple princier sous un pavillon, on voit combien c'est plus dans un souci esthétique de vibration de vie que l'artiste a souhaité s'exprimer. Les carnations ne révèlent pas ici, par exemple, de nature particulière pour les personnages qu'elle représente. Le prince est plus sombre que la princesse, mais nul doute que les deux sont exactement de même statut. On retrouve d'ailleurs ces variantes sur les carnations si l'on observe les serviteurs qui s'affairent autour de ce couple. Et il en va de même pour le monde animalier, où là aussi les textes peuvent parfois préciser des couleurs spécifiques pour tel ou tel type d'animal dans tel ou tel contexte, plus souvent d'ailleurs dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Et dans ce détail d'une scène de Jataka de la grotte numéro 17, eh bien, on voit que le peintre a vraiment souhaité ou essayé de rendre l'esprit naturel de mouvement et de volume aussi des volatiles dans cette représentation du Hamsa Jataka, par un jeu subtil de modeler auquel il parvient par des procédés que je vais vous montrer dans un instant. Quant aux aspects plus décoratifs que l'on peut relever dans ces peintures murales d'Adjanta, ils sont tout aussi riches et exceptionnels que les représentations purement figuratives, comme vous le montre ce détail d'un rinceau de la grotte numéro 2, où la blancheur de la fleur de lotus se combine avec le bleu délicat et le vert des autres plantes aquatiques qui suggèrent bien sûr des idées de renaissance, de pureté, de purification ou de sainteté des lieux qui sont naturellement congénitaux à des sites comme Adjanta. Alors on pourrait s'attendre dans le cas de représentation et surtout dans un contexte mahayanique, dans le cas de représentation de Bodhisattva, à ce que justement les couleurs participent de l'interprétation, de l'identification des personnages. Mais nos moyens étant ceux qu'ils sont, il n'a pas encore été possible par ce biais-là, et par ce biais-là seulement, de reconnaître tel ou tel de ces personnages. Dans la grotte monastère numéro 1, il y a ces très célèbres représentations mondialement connues et d'une qualité absolument unique, qui se distinguent l'une de l'autre. Elles se trouvent aux abords de la porte du petit sanctuaire creusé au fond de cette grotte numéro 1. Elles se distinguent l'une de l'autre par leur carnation, mais ces éléments-là ne participent pas de l'exposition ou de la mise en image, en couleur, des éléments fournis par les traités, quels qu'ils soient. Comme par ailleurs les éléments iconographiques plus classiques que sont les attributs ou éventuellement les ornements de coiffure ne sont pas non plus très lisibles, ces deux bodhisattvas, ce sont effectivement des bodhisattvas, restent à ce jour anonymes, non pas que les spécialistes n'aient pas pu leur trouver d'identification en se fondant sur tel ou tel détail, mais il n'y a pas consensus en la matière. Le plus remarquable des deux, au moins pour les aspects techniques qu'il nous présente, est celui de droite, lorsqu'on regarde le sanctuaire. Ce personnage, qui est le portrait quasi vivant d'un haut dignitaire ou d'un monarque, même de l'époque Gupta Bhakataka, par la splendeur de sa couronne, par tous les éléments en fait décoratifs qui se combinent sur lui. Mais il est intéressant en matière d'étude de la peinture pour les détails techniques qu'il nous montre, car le modelé, l'application des couleurs dans la peinture murale indienne se faisait par cernes concentriques, c'est-à-dire qu'on appliquait de manière circulaire ou non d'ailleurs, des touches, des plages de peinture de nuances différentes pour créer du modelé. Un modelé artificiel qui crée comme une lumière intérieure dans ces personnages, mais qui leur donne cette apparence de vérité qui était recherchée par les artistes. Et ici, la ligne des sourcils, l'arête du nez, ou les ailes même du nez, sont rehaussées d'une touche plus claire par rapport à la carnation elle-même et permet ainsi à ce visage d'être très présent au regard du spectateur. Il en va de même dans un des assistants de ce bodhisattva, c'est exactement le même type de technique qui a été mise en œuvre. Et en fonction des artistes divers qui ont pu s'exprimer dans ces peintures murales d'Adjanta, on voit de place en place précisément que ce genre de traitement, cette facture spécifique, était maîtrisée plus ou moins bien par les artistes. Cet autre détail de la grotte numéro 17, sous la véranda, une petite apsara, nous montre quelque chose de proche du très beau visage de Bodhisattva que nous venons de voir à l'instant, mais exécuté avec une économie de moyens, un moindre raffinement dans le détail. Et les choses vont encore plus loin lorsque l'on a affaire à des fragments de peinture, ou à des panneaux dans lesquels des tâcherons, plus que de réels artistes, ont pu s'exprimer. Vous voyez ici combien ce système de modelé par touche d'aplats chromatiques juxtaposés peut parfois être un peu malhabile dans le traitement du visage ou même des pectoraux du personnage. Pour en venir maintenant à Tanjore, les choses se présentent de manière tout à fait différente. Là, effectivement, dans le domaine symbolique, les couleurs, leurs valeurs, leur signification participent réellement de la création des peintres. La couleur des carnations des dieux, de leurs costumes, de leurs chevelures, le cas échéant, sont autant d'éléments qui jouent un rôle dans la compréhension de ces scènes. Mais au-delà de ça, on doit noter, dans l'évolution des formes aussi, combien depuis la monochromie, entre guillemets, bien sûr, de nature automnale des grottes d'Adjanta, eh bien combien cette uniformité de ton et cette très grande harmonie qui régnait à Adjanta a cédé le pas, quelques siècles plus tard, à cet art chatoyant, vibrant, où beaucoup plus de couleurs sont utilisées dans la palette et où, dans le fond, le sens, le sentiment de vie et de réalisme tempéré qui pouvait s'exprimer à Adjanta semble disparaître. Alors, ce panneau est absolument illisible lorsqu'on ne sait pas de quoi il s'agit, mais il faut dire que ces peintures de Tanjore ont considérablement souffert. Elles ne sont pas faciles non plus à voir et à photographier. Et c'est plus ici pour vous donner l'impression de ce que sont ces panneaux illustrant des thèmes importants du shivaïsme que je vous montre le cliché. Il se trouve dans le déambulatoire qui entoure la cella, le Saint des Saints, un déambulatoire relativement exigu. Il n'y a guère plus de 2 mètres de profondeur de champ lorsqu'on veut réaliser des photographies, alors que les panneaux eux-mêmes font près de 2,50 m de large sur 3,50 m de haut. On peut d'ailleurs se demander comment, d'un point de vue technique, tout cela a pu réellement être réalisé et avec cette maîtrise. Voici le plan de la tour sanctuaire avec ce déambulatoire et les cellules qui le jalonnent. Les peintures se trouvent essentiellement dans les cellules numéro 5, 9, 10 et 11. C'est là que l'on trouve les vestiges d'époque Chola concernée. Cette peinture Chola ne se rattache pas, évidemment, d'un point de vue strictement formel, aux peintures d'Adjanta, ce qui est normal parce que plus de 5 siècles les séparent, ce qui est normal aussi parce que, dans le fond, il y a ces deux grands domaines religieux, le bouddhisme et l'hindouisme, et qu'il n'est pas nécessaire de chercher à trouver et à tisser des liens entre des modes d'expression ne sont dans le fond pas les mêmes d'un point de vue conceptuel. En revanche, l'art Chola et les peintures de Tanjore dérivent pleinement des quelques vestiges de l'époque Pallava que l'on connaît dans certains temples, comme ici au Kailasanatha de Kanchipuram, dans la chapelle numéro 23 de l'enceinte qui entoure le sanctuaire, où vous ne distinguez pas grand-chose, si ce n'est un dessin d'une partie d'une représentation de Somaskanda sur la gauche et les pigments préservés de ce même Somaskanda à droite, où l'on voit essentiellement d'ailleurs le visage et le buste de la déesse. Le temple de Talagirishvara à Panamalai propose de même que le temple de Kanchipuram, le temple précédent, le Kailasanatha de Kanchipuram, des peintures murales, un peu plus lisibles ici. Et nous sommes là devant une représentation de Devi assistant à la danse de Shiva, son époux, une Devi à la carnation verte, dans laquelle le modelé, on le voit, dérive bien sûr de ces modelés très savants, non pas élaborés, mais en tout cas explicités de façon magistrale à Adjanta, sans que, de nouveau ici, les pigments, la coloration même du personnage, ne correspondent réellement à ce que nous disent un certain nombre de textes. Les panneaux les mieux préservés à Tanjore sont riches de détails iconographiques, bien sûr, et également historiques. Nous sommes ici devant l'un des plus beaux, où l'on voit le fondateur du temple, Rajaraja soi-même, accompagné de 3 de ses épouses, venir rendre hommage à l'image de Shiva dansant au temple de Chidambaram. En fait, il y a un double discours, le discours politique et historique, le roi qui vient rendre hommage à sa divinité d'élection, et un discours artistique où le peintre nous montre sur un même plan, dans un même type de traitement, des humains, des vivants, le roi, ses épouses, et puis ses ministres, sa cour, et le dieu qui doit être ici vu non pas comme une image, mais comme la représentation d'une statue. Alors on sait bien que les statues des dieux sont vivantes en Inde, puisque le dieu est dans la statue, il l'anime. Mais ce traitement non différencié de l'humain et de la représentation divine est quelque chose d'assez frappant et dans le même temps de très maîtrisé, parce qu'il aurait pu être choisi par les artistes de différencier les deux domaines. Or, ça n'a pas été le cas. Les couleurs jouent bien sûr leur rôle. L'éclatant blanc qui constituait ici la carnation du dieu Shiva subsiste suffisamment pour évoquer cette idée de salut, souvent associée à la danse de Shiva, que par ailleurs on sait être une danse de destruction, mais toute destruction dans le temps cyclique qui est celui de l'Inde implique une renaissance et une recréation. Et puis à ses côtés, le roi Rajaraja et ses épouses, dans des carnations assez surprenantes, très contrastées, qui sont bien sûr là pour différencier les personnages, sans qu'elles puissent les caractériser, et qui dans le même temps donnent rythme et animation à ces ensembles picturaux. Car dans une tradition occidentale, on se serait ingénié à trouver des carnations très proches les unes des autres pour représenter au moins les trois épouses. Mais ici, peut-être par leur statut, les couleurs qu'elles présentent sont différentes et ceci anime considérablement les scènes. Il en est de même dans cette scène illustrant l'un des mythes épiques les plus remarquables figurés à Tanjore, Shiva Tripurantaka, destructeur de des citadelles célestes des trois Asuras, où la mêlée furieuse que le panneau d'ensemble nous montre est absolument illisible de prime abord, si ce n'est sur la partie gauche où Shiva se détache sur un fond vert, alors que du côté droit, les Asuras essayent de résister aux assauts du dieu, sans bien sûr y parvenir. Certains sont d'ailleurs déjà vaincus. C'est ce que montre ce détail, tout à fait entre Shiva et les Asuras, où figurent les dieux qui viennent aider Shiva à vaincre les démons, des dieux chevauchant des montures, toutes de même teinte. On observe le lion blanc pour Durga, le paon blanc également pour Skanda, le rat blanc de même pour Ganesha, et des carnations de divinités qui se différencient là aussi les unes des autres selon des règles normatives qui ne sont peut-être pas encore complètement codifiées ou codifiables à la lumière des textes dont nous disposons. Et ce qu'il était possible de dire à propos des carnations des humains, les épouses de Rajaraja dans le panneau où il rendait hommage à Shiva dansant à Chidambaram est également doit être également souligné dans le groupe des Asuras, où ces êtres, étant théoriquement de même nature, devraient tous avoir à peu près la même apparence, mais certains sont jaunes, d'autres sont verts, quelques-uns encore rouges. Ce sont les expressions faciales, ce sont les attitudes, bien sûr, qui les différencient. Et si les artistes ont à ce point insisté sur ces nuances de couleurs, et plus que des nuances d'ailleurs sur cette différenciation des carnations, c'est pour la lisibilité et pour l'animation même de la scène, qui est un des éléments symboliques importants concernant l'action de Shiva Tripurantaka, que l'on retrouve ici dans une carnation rouge très classique et conforme à ce que doivent être ces représentations, la fureur, la rage, associée d'ailleurs à l'idée d'héroïsme, que cette carnation rouge donc transcrit de manière tout à fait conforme à l'iconographie appliquée au monde de la couleur et également à l'impression que véhiculent toutes ces images et qui s'inscrit, comme vous l'indiquait Madame Parlier-Renaud, dans cette perspective de la théorie des rasas. Et puis je terminerai sur une image d'une nature un petit peu différente qui est très célèbre dans ce déambulatoire part du temple de Tanjore, figurant deux sages, deux rishis, l'un plus jeune que l'autre, est traditionnellement identifié comme représentant Rajaraja et son gourou Karuvurdevar. Mais en fait, cette identification qui ne se fonde que sur l'apparence des personnages et leur couleur, justement, est très certainement fautive. Ces deux personnages, maître et disciple, très certainement, ne représentent vraisemblablement pas le monarque et son gourou, dans la mesure où tous les autres éléments iconographiques, la coiffure, le costume, les quelques parures qu'ils portent, ne correspondent pas du tout à ce que l'on peut observer dans les scènes où, de façon très claire, Rajaraja est représenté. En fait, ici, le personnage jeune de carnation plus claire, sans qu'on la qualifie précisément, a été reconnu comme étant le roi, mais c'est tout simplement un personnage plus jeune. Et le second, plus chenu, plus marqué par l'âge, c'est d'ailleurs visible dans les traits du visage, est pour sa part de carnation foncée, elle est ici verte. Il n'y a pas lieu, et personne jusqu'à présent n'a réellement cherché à expliquer la raison pour laquelle ces carnations, ces couleurs, étaient précisément employées dans le cas de représentations de ce type. Tout ce que l'on peut dire, c'est que s'il y a des règles normatives explicitées dans des traités, elles sont évidemment l'objet d'infinies variantes et d'une certaine prise de distance aussi par les artistes pour répondre à la demande de leurs commanditaires, aussi bien religieux que politiques. Je vous remercie.
C'était magnifique, passionnant et très instructif, mais les 30 minutes ont été dépassées, si bien qu'il y aura place pour une seule question. Peut-être M. Filioza peut nous dire...
monopoliser les questions, mais enfin j'étais ébloui par les belles reproductions. On ne voit pas tous les jours Adjanta et Tanjore représentés aussi visibles. Je voudrais juste vous poser une brève question sur le modelé. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que Adjanta de modelé de véritablement un jeu d'ombre avec un dégradé de ton? Ce modelé, on l'aperçoit encore à Panamalay, qui me paraît être très proche du style d'Adjanta. Mais avec Tanjore, le modelé disparaît presque complètement. Nataraja blanc, et c'est un aplat tout simplement, et il semble, là je ne suis peut-être pas bien renseigné, mais il semble qu'après Tanjore, le modelé a été oublié en Inde et qu'il faille attendre l'influence européenne à l'époque moghole.
Oui, c'est vrai, c'est un petit peu aussi l'enchaînement, on va dire, du propos qui était le mien. En fait, à part Adjanta, il y a quelques vestiges de peinture à bagues, mais tellement dégradés qu'on n'y lit plus grand-chose, mais qui étaient de même nature, c'est de même époque de toute façon. Il y a également, sur le site de Badami, dans la grotte numéro 3, des vestiges de peinture où cette technique de modeler par aplat ou juxtaposition de touches de nuances très délicatement différentes les unes des autres donne corporalité à toutes ces peintures. Donc c'est une question, je pense, la question du modelé, qui a trouvé son expression la plus habile, la plus magistrale à Adjanta, en tout cas à l'époque Gupta, on va dire, parce que sans doute qu'Adjanta n'était qu'un des nombreux sites où ce type de technique a été mise en œuvre. Dans le domaine de la peinture murale, on ne connaît malheureusement pas celui des manuscrits, ni de la peinture portative sur textile ou autre. Et effectivement, dès les 7e, 8e siècles, sous les Pallava, par exemple, avec les quelques exemples, enfin, les quelques vestiges qui nous sont parvenus, le modelé qui existe toujours tend effectivement à ne plus être aussi évidemment recherché par les artistes dans leur représentation. Indépendamment de cela, il y a évidemment le célèbre site d'Adjanta, où avec des nymphes célestes, dont le modelé dérive assez directement de celui qu'on peut observer à Adjanta. Mais vous avez tout à fait raison, après cela, pour l'époque médiévale, dans les vestiges de peinture murale des temples de l'âme du Sud, et pour ne le réciter que Tanjore, par exemple, le modelé disparaît. Ce sont d'autres préoccupations qui ont intéressé les artistes. Et il y aura un renouveau, bien sûr, de tout cela avec, effectivement, les influences occidentales, mais surtout le développement propre, on va dire, de la miniature indienne elle-même. Mais on procède plus à ce moment-là, quand même, par aplats.
Vous venez d'entendre la communication de Thierry Zéphir du musée Guimet, intitulée « Symbolique et esthétique des couleurs à Agenta, Tajoré », dans le cadre du colloque de l'Académie des inscriptions et belles-lettres « Voir et concevoir la couleur en Asie » qui s'est déroulé en janvier 2013. Retrouvez l'ensemble des interventions de ce colloque sur Canal Académie.